7h15 minutes, on a appris hier le décès de Claude Bellan, l'ancien président du mouvement Desjardins, décédé à l'âge de 87 ans. Et au-delà de Desjardins, c'est un monument de l'histoire économique du Québec qui disparaît. On va parler avec Pierre-Yves, puis faire peut-être un peu le parcours de Desjardins, j'allais dire, de Claude Bellan à Guy Cormier.
Mais surtout de montrer l'évolution entre le rôle du président de M. Bellan et celui de M. Cormier. C'est-à-dire, on a parlé beaucoup du côté humaniste de M. Bellan. C'est clairement un social-démocrate. C'est un homme qui était pour la justice sociale. C'est un gars qui avait l'idéalisme en avant. Personnellement, je l'ai rencontré une fois. On avait une discussion avec des points de vue opposés sur certaines choses, mais en général, tu sais, on comprend sa mission personnelle. Mais depuis, lui, imagine, là, il a quitté ses fonctions en 2000. Imagine comment le monde des finances a changé. Lui, il a connu le côté accès à Internet qui commence. Là, on parle, je sais pas si tu viens à l'époque, là, qu'il a quitté, là, tu téléchargeais à 4,3 K par seconde, 7 K par seconde, et tu prenais la place, dans le fond, de la ligne téléphonique. Donc, on ne pouvait pas, à l'époque, voir les finances au niveau d'Internet comme aujourd'hui. On ne pouvait pas se dire « Hey, là là, les caisses vont disparaître puis ça va devenir une application Internet. » On essayait de convaincre à l'époque les gens d'aller dans le guichet. On essayait de convaincre les gens d'utiliser leur carte. Puis là, on est à une situation où la caisse de coin de rue ou la succursale est techniquement plus utile. Moi, je pourrais techniquement aujourd'hui, Paul, là, ne pas aller chercher d'argent cash dans une journée. Et ajoute à ça, la différence de la perception des gens. En 1999, j'étais allé me chercher un dépôt à la Caisse populaire, puis j'avais placé pour un an à 4,45%. Puis je trouvais ça donc pas rentable. Mais aujourd'hui, un dépôt dans le milieu bancaire puis dans la caisse, c'est moins de 2% pour le même terme avec la même valeur. Et oui, moi et monsieur avait réussi à, monsieur Bellan, à commencer le mouvement de regrouper les choses chez Desjardins. Mais depuis, ça s'est accéléré à une vitesse grand V. Et il était le premier, Paul, faut dire, très critique, hein, un peu comme un ancien chef du PQ, très critique envers les gens qui l'ont suivi. Et qui a commencé à critiquer le mouvement en disant qu'il avait perdu son âme. Mais en même temps, Desjardins aujourd'hui est obligé de maintenir des ratios de capital importants pour générer de la croissance qui permet à prêter à plus de monde. Parce que contrairement à une banque, tu peux pas t'en virer de bord puis dire « je vais aller lever des actions pour augmenter mon capital. » C'est une coopérative. Donc, on doit être prudent. Et d'ailleurs, après la crise financière, Desjardins a été évalué comme une institution financière à risque systémique important. Et donc, on n'a plus la même réalité du type, entre guillemets, bénévole. On est dans une entreprise qui a pas le choix de générer des surplus pour aider ses membres. Puis là, t'es le président aujourd'hui, là. Puis là, t'as un réseau de succursales. T'as des bails, t'as des beaux commerciaux. Et là, tu te dis, à quelle vitesse je vais faire disparaître les transactions?
Puis t'as un petit problème aussi avec la protection de tes données.
Oui, aussi, écoute, mais pas juste lui. On parle partout dans le monde, c'est l'argent qu'il faut mettre maintenant en TI, en technologie de l'information. Écoute, Paul, j'ai 40 ans, puis je me souviens quand j'avais 6 ans, là, rentrer à la caisse, là, pas entendre. Ça, c'était les tampons qui se faisaient à la caisse pendant que ma mère attendait en file, tu sais, pour retirer de l'argent pour la fin de semaine, parce que c'était fermé. Tu te rends compte comment aujourd'hui, ce serait spectaculaire de dire « Hey, on consomme pas en fin de semaine, on n'a pas d'argent cash, on est obligé de retirer vendredi. » C'était ça la réalité de quand j'étais petit, puis je suis pas si vieux que ça. Là. Donc, imagine-tu aujourd'hui que la succursale est dans ton cellulaire et tu dois maintenant numériser tes chèques et attacher votre truc. Là. Les guichets que vous voyez présentement dans les institutions financières, ce sont les derniers guichets. Vous allez être témoin de la disparition des guichets automatiques sur votre vie. Là. Ceux qui ont 20 ans aujourd'hui puis qui voient la machine de coin de rue, moi, j'ai vu l'apparition quand j'étais jeune de ma mère la première fois aller mettre sa carte dans un mur. Hein. Et là, t'as le président qui doit gérer le fait de dire « On renouvelle nos guichets une dernière fois, mais ils vont disparaître. » Un kid de 20 ans n'a plus besoin, techniquement, à moins de donner de l'argent à quelqu'un sur la rue ou d'acheter dans un festival une bière d'argent cash. Tu peux passer ta vie aujourd'hui pendant un an sans payer cash, puis tu vas te priver de quelques commerces, mais tout au plus. Donc, on est rendu à une autre ère, puis la vie a tellement changé que c'est difficile de prendre la réalité, d'y sortir Alphonse Desjardins puis la réalité de M. Bellan et d'amener ça en 2019-2020 puis dire, ben on a perdu notre âme ou ce n'est plus... Non, c'est différent.
Il y a un petit mot en terminant sur Uber.
Oui, ben écoute, Paul, Uber, ben là, ils ont perdu leur droit d'opérer à Londres. C'est quand même important, là. Dépouiller de la licence en disant que ça nuit à la sécurité des passagers.
Ben, c'est parce que ce que je comprends, c'est que Uber est pas capable de prouver que tous ses chauffeurs ont une assurance et même un permis de conduire.
Ben, écoute, ça doit être tu sais, imagine le contrôle. Puis ça, c'est difficile, imagine faire le suivi. La personne, quand elle s'inscrit, elle a une assurance et un permis de conduire, mais il faut que tu maintiennes ce droit-là. Et l'action, écoute, a planté cette année. Là, on parle de 47 $ à son maximum, puis là, on est en bas de 30. Et les états financiers sont très clairs. Le modèle d'affaires est très clair. Uber, dans son rapport annuel, dit « ça nous prend beaucoup d'offres de conducteurs, donc ça n'en prend, puis on va y aller à tout ce qu'on peut avoir comme conducteur, pour avoir un plus petit délai d'attente qui va générer... plus de demandes et donc plus de conducteurs qui vont générer... Fait que c'est une roue qui tourne. Pour générer des liquidités, Uber dit « ça nous prend plus de chauffeurs ». Alors, t'imagines-tu, à l'entrée, le contrôle est plus difficile. Imagine contrôler des gens qui sont chez eux, qui partent avec leur voiture puis ils reviennent chez eux et t'es vois jamais entre guillemets au bureau. Il n'y a pas un contrôle, c'est virtuel. Quand tu prends Uber, tu fais affaire avec un gars qui a une Corolla chez eux puis qui s'est déplacé chez vous puis qui est retourné chez lui. Mais il pourrait imagine le contrôle qu'il faudrait que tu aies à chaque mois sur chaque chauffeur. Donc effectivement, la liberté économique ou la liberté technologique amène des problèmes de contrôle au niveau de l'identité des personnes.
Merci monsieur, bonne journée.
Salut.
Salut, 7h21.